La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré.
Encore un sujet d'inégalité et de discrimination entre les deux sexes en matière de santé. Les études montrent que les femmes et les hommes ne sont pas logés à la même enseigne, non seulement pour des raisons biologiques, mais aussi pour des raisons sociales, culturelles et économiques qui ne sont pas toujours prises en compte, et ces différences de prise en charge ont un impact sur la santé des femmes. C'est le dossier de La Tête au Carré cet après-midi avec mes invités qui se sont intéressés de près à cette question. On en parle avec vos messages, toutes vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science cet après-midi, l'impact de la hausse des températures sur l'énergie éolienne.
Et oui Mathieu, puisque le réchauffement pourrait faire baisser la force des vents dans l'hémisphère nord et donc l'intérêt de l'éolien. On en discute avec le climatologue Hervé Le Treut.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission aujourd'hui, préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les femmes et la santé, là aussi des inégalités, c'est le thème donc de notre dossier dans un instant avec mes invités que je salue, avec moi en studio Catherine Vidal et Aude Bernheim. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis en duplex de Lyon, Muriel Salle, bonjour à vous.
Bonjour.
Catherine Vidal, en matière de genre et de santé, les différences ne sont pas que biologiques, loin de là, c'est ce que vous avez étudié.
Oui, il est important de réfléchir à la question de la santé, non seulement en termes de biologie, mais aussi en termes de société. Il existe bien évidemment des différences entre les femmes et les hommes dans la santé qui sont liées à la biologie, aux hormones, aux chromosomes, aux organes reproducteurs. Mais il existe aussi d'autres facteurs qui vont conduire à des inégalités dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale.
On va les découvrir avec vous tout au long de cette émission. Muriel Salle, justement, ces inégalités, alors ça n'est pas une découverte, c'est une problématique qui existe depuis longtemps déjà.
Oui, c'est effectivement une problématique qui s'installe dès la fin du XVIIIe et dès le début du XIXe siècle. À partir du moment où un discours médical s'élabore, les stéréotypes et l'idée qu'il y a des différences incommensurables entre les hommes et les femmes sont préjudiciables effectivement à la santé des patients et des patientes.
Elle a aussi beaucoup d'exemples à nous donner dans quelques minutes. Aude Bernheim, il y a un vrai défi aujourd'hui à promouvoir cette égalité dans ce domaine précis de la santé.
C'est sûr que la plupart des gens ne sont pas conscients qu'il y a une telle différence de traitement et du coup beaucoup de sensibilisation et d'action à mettre en place pour pouvoir changer les choses.
Allez, on en discute ensemble dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et quand le réchauffement climatique redessine la carte des vents autour de la planète.
Balayée par les vents, la Côte d'Azur avait aujourd'hui des airs de littoral breton. Un peu plus tôt, c'est dans l'ouest de la France que le vent a soufflé jusqu'à 160 km/h, occasionnant de nombreuses chutes d'arbres et des coupures d'électricité. Ce soir, 7 départements sont toujours en vigilance orange.
Voilà, et même si les épisodes extrêmes comme la tempête Anna la semaine dernière pourraient s'intensifier avec le réchauffement climatique, la moyenne annuelle de la force des vents dans l'hémisphère nord devrait baisser d'ici 50 à 100 ans, avec sûrement un impact sur la production d'énergie éolienne. C'est ce que nous dit une étude d'un nouveau genre parue dans la revue Nature Géosciences, dont on discute, Axel, avec notre invité, nos invités d'ailleurs.
Oui Mathieu, on est en studio avec Hervé Kempf, rédacteur en chef du magazine reporter.net, partenaire de La Une. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Et on est au téléphone avec Hervé Le Treut. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur du laboratoire de météorologie dynamique de Jussieu et membre de l'Académie des sciences. Alors pourquoi le réchauffement modifie la carte des vents autour de la planète? C'est quelque chose qu'on sait depuis un moment.
Oui, on connaît bien les principes. Après, le problème c'est de savoir un petit peu comment ça se distribue géographiquement. Il y a plusieurs moteurs en fait pour la circulation atmosphérique. Premier moteur à nos latitudes, c'est le gradient, ce qu'on appelle le gradient, la différence de température entre les pôles et l'équateur. Alors celle-là a plutôt tendance à se réduire, et donc les vents à nos latitudes vont plutôt se réduire aussi. Et puis on a des différences qui viennent du réchauffement un petit peu différent sur les continents, sur les océans. Donc là on a une température qui peut être un moteur très fort de changement des vents, avec des vitesses qui peuvent être considérables, et des cyclones, des choses très puissantes, mais c'est particulier à une région du monde qui est la région très chauffée déjà, et qui se chauffe encore plus avec le changement climatique.
Ça veut dire qu'il y a un principe de vase communicant entre l'hémisphère nord et l'équateur en termes de force des vents ?
Non, c'est pas un principe de vase communicant. On a une région qui réagit vraiment au chauffage de manière directe, qui est la région de l'équateur, de la zone intertropicale, avec des systèmes qui sont par nature très violents et qui sont encore plus en cas de réchauffement. Et puis une région où on change de climat tous les quelques jours, on est plutôt dans de la variabilité, dans de l'intermittence, qui pose des problèmes d'ailleurs pour l'utilisation de l'énergie éolienne, parce que ça fluctue tout le temps. Mais c'est des fluctuations qui vont s'atténuer un petit peu parce que le gradient de température pôle-équateur va diminuer. Les pôles se réchauffent beaucoup plus vite que le reste de la planète.
Ouais, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on entend dire tout le temps. D'ailleurs, Hervé Le Traite, que les événements extrêmes vont se multiplier, comme on pouvait le dire d'ailleurs dans les derniers rapports du GIEC.
Alors, le rapport du GIEC est assez prudent. Il distingue bien les différentes régions et les différents problèmes. Les extrêmes sont très différents. Il y a des extrêmes tropicaux. Les extrêmes tropicaux, la difficulté, c'est que les vents vraiment extrêmes sont très rares, alors on n'a pas beaucoup de recul pour juger ce qu'il en est, mais on sait que, dans le principe, le réchauffement de la planète devrait les favoriser. Et on a donc chaque fois qu'on voit des signaux, comme ce qu'on a vu récemment dans les îles Caraïbes, on se dit que c'est peut-être les prémices d'un changement climatique. En tout cas, ça ressemble à des choses qu'on est en droit de craindre. À nos latitudes, c'est différent. On a vu des tempêtes comme Cynthia. On a du mal à les associer de manière claire à un signal de réchauffement climatique. On peut imaginer des mécanismes, par exemple avec les changements d'étendue de la banquise. Mais pour le moment, c'est pas des choses qui sont clairement prouvées. Le fait qu'à nos latitudes, on ait des risques de température plus fortes. Ce qui fait le risque majeur, c'est le contraste de température entre, par exemple, les océans et la surface continentale qui peut augmenter, donc augmenter les vents.
Hervé Kemp pour reporter.net.
Et comment joue l'Arctique, justement, qui est une région qui se réchauffe beaucoup plus rapidement que le reste du monde, comment ce réchauffement joue sur le changement du régime des vents, ou va jouer sur le changement du régime des vents?
Il commence certainement déjà à jouer, sauf qu'on ne peut pas le discerner clairement. On a à la fois un contraste de température, qui est quand même un des moteurs de la circulation atmosphérique, qui est plus faible entre les pôles et l'équateur. Et puis, c'est vrai, on a aussi un changement des évaporations, de tout ce qui fait la difficulté de la circulation atmosphérique, la multiplicité des processus qui interagissent. Donc, on a cette banquise qui est en retrait, avec un albédo qui a une réflexion du soleil qui est diminuée. On est face à un climat qui devient différent et qui peut-être a des particularités qu'on n'a pas encore bien appréciées.
Pour en revenir au vent, l'originalité de cette étude, c'est de faire un lien entre ces changements et la production d'énergie. Est-ce qu'il y a vraiment des endroits, notamment dans l'hémisphère nord, où il va falloir repenser ce mode de production ?
Bon, je pense pas que non. On n'est pas avec l'idée de repenser le mode de production. Par contre, ce qui est certain, c'est que la difficulté majeure qui est associée au vent et à l'usage du vent, c'est ce qu'on appelle l'intermittence. Alors l'intermittence, on peut remarquer, c'est qu'elle est différente dans les régions de moyenne latitude, et puis dans les régions, par exemple, de basse latitude, on a des vents alizés, plutôt des vents marins, mais qui sont aussi des vents continentaux sur lesquels qui peuvent être des moteurs d'éoliennes. Ces vents-là sont beaucoup plus réguliers, sont beaucoup plus aptes à fournir de l'énergie éolienne. Donc il y a une différenciation à faire entre les différents régimes de vent et l'usage qu'on peut faire de l'éolique, qui est plutôt lié aux fluctuations de court terme, à toute cette intermittence qui est très difficile à gérer à nos latitudes.
On a des éoliennes qui pour l'instant font en moyenne 150 mètres de hauteur en bout de pale. On s'achemine vers des éoliennes de 250 mètres voire plus. Est-ce que ça change le régime de vent à 300 mètres de hauteur ou à 100 mètres de hauteur?
Ah oui, le vent, ça faiblit considérablement près du sol. En fait, le sol freine le vent de manière considérable. C'est aussi générateur de turbulences, de petits mouvements, de petits tourbillons qui sont pas toujours favorables à la génération d'énergie éolique. Donc plus on éolienne, plus on va haut dans l'atmosphère, plus on peut capter un vent puissant et aussi un vent plus régulier certainement.
La Tour Eiffel, ça fait une bonne éolienne finalement, Hervé Kempf. Elle est juste à côté en plus, à 300 mètres. Hein, voilà, ouais. On peut l'utiliser. Axel, une dernière question.
Oui, une dernière question. À part l'éolien, est-ce que d'autres secteurs vont devoir se préparer à ces changements dans le vent?
En fait, le vent, c'est un petit peu toute la vie de la planète. Hein. Le vent transporte l'eau, transporte le carbone, crée les paysages. Donc bien sûr, qu'on appelle le dérèglement climatique, c'est avant tout un dérèglement du vent, dérèglement qui ne peut pas se limiter à dire que les vents vont être plus puissants, c'est plus compliqué que ça. Et tout ce paysage nouveau des vents qui va être... qui est en partie compréhensible, donc en partie anticipée, est aussi en partie chaotique. Donc, générateur de beaucoup de risques qu'il faut anticiper aussi.
Merci à vous, Hervé Letreut, climatologue, donc, et directeur de ce laboratoire de météorologie dynamique de Jussieu. Hervé Kempf, on va retrouver toutes ces infos sur l'impact du vent sur la production d'éoliennes, justement, dans Reporter.
Tout à fait. Et puis, justement, l'enquête, on a fait une grande enquête sur l'éolien. C'est Grégoire Souchet, le journaliste, qui a analysé les problèmes écologiques, la technicité des éoliennes, leur économie. Ça, c'est à la une de aujourd'hui sur Reporter. Et puis aussi, un autre sujet qui peut être intéressant. Vous savez qu'on parle beaucoup d'un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Ah bon?
Il paraît. Certains disent même qu'il faudrait évacuer cette terrible ZAD. En fait, des naturalistes, des scientifiques proposent de faire un plan de sortie heureux et pacifique à Notre-Dame-des-Landes en imaginant de le transformer en une expérimentation agroécologique. Parce qu'après tout, c'est un lieu qui est passionnant, c'est un lieu de bocage, une zone humide. Et comment est-ce qu'on pourrait marier une agriculture vivante avec le respect de l'écologie? C'est à la une de Reporter aujourd'hui.
Voilà, reporter.net, le quotidien de l'écologie sur Internet. Merci Hervé. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'Organisation mondiale de la santé qui s'inquiète de l'explosion du marché des voitures d'occasion en Afrique. Chaque année, on estime que 3 à 4 millions de véhicules de seconde main y sont importés depuis l'Europe. En 2015, une étude britannique avait déjà montré que près de 20% des décès au Kenya pouvaient être attribués à la pollution de l'air générée majoritairement par le trafic routier. Face à ce constat, le programme des Nations Unies pour l'environnement a décidé de consacrer un rapport au marché des véhicules d'occasion. Dans ce dernier, les experts mettent en avant le vide réglementaire concernant le transfert de véhicules obsolètes et polluants et s'inquiète des impacts possiblement désastreux sur la santé des habitants. L'île de Kizar, redécouverte grâce à son art pictural, cette île d'Indonésie, explorée pour la première fois par des archéologues, présente de nombreuses peintures datant de plus de 2500 ans, des motifs de chiens, de chevaux et d'hommes. Similaires, d'ailleurs, ont été retrouvés sur l'île voisine de Timor-Leste, représentant des hommes remarquablement petits dans les deux cas. Ces peintures renseignent sur les possibles échanges de l'île avec celle qui l'entoure. Les spécialistes pensent qu'elles annonçaient par ailleurs l'introduction d'un nouveau système de symboles établi il y a 2000 ans et que l'on retrouve également en Chine. Et puis des paléontologues canadiens ont retrouvé les restes d'un ours vivant il y a 3,5 millions d'années, légèrement plus petit que son cousin moderne, l'ours noir d'Amérique, avait déjà développé des stratégies de survie similaires à ce dernier. Les chercheurs ont en effet retrouvé de nombreuses caries dans sa dentition, indiquant un régime alimentaire riche en calories. Cette consommation de baies lui permettait le stockage de graines nécessaires au passage de l'hiver, qui pouvait être très rude. Le fossile a d'ailleurs été retrouvé sur l'île d'Ellesmere, située au nord de l'archipel arctique canadien. Il s'agirait d'un des premiers témoignage de l'immigration d'Asie vers l'Amérique du Nord des ursidés et de leur capacité à coloniser des zones aux conditions de vie aussi rigoureuses. Allez, genre et santé, c'est le dossier dans un instant.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, retousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, hey, prudence, prends garde à ton jupon. si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute, raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur ton désert, tu croises le vent, le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur ton désert, tu croises le vent, le vent marron, prudence, prends garde à ton chapeau.
Le vent, et c'est la version bien sûr de Catherine Ringer à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Les inégalités hommes-femmes dans le domaine de la santé, c'est donc notre dossier cet après-midi pour voir comment justement garantir l'accès aux soins sans discrimination. Trois invités pour en parler. Catherine Vidal, vous êtes directrice de recherche honoraire en neurosciences à l'Institut Pasteur. Et depuis 2013, vous travaillez au sein d'un comité d'éthique, du comité d'éthique d'ailleurs de l'INSERM, où vous co-animez ce groupe de réflexion genre et recherche en santé. Muriel Salles, vous êtes en duplex des bureaux de Radio France à Lyon. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Lyon et vous enseignez également en fac de médecine, et avec Catherine Vidal, vous publiez ensemble Femmes et santé, encore une affaire d'hommes, aux éditions Belin. Et
puis, point d'interrogation.
Point d'interrogation, évidemment. Et puis Aude Bernheim, vous êtes chercheuse à l'Institut Pasteur en génétique moléculaire et vous êtes cofondatrice de l'association Wax Science qui milite pour une science ludique, ouverte et sans stéréotypes. C'est bien ça.
Hein, voilà, ça fait beaucoup. Mais
c'est,
ça.
Mais c'est pas mal et c'est ambitieux. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions qui arrivent déjà sur le site de l'émission et sur le mot-clé l'attaque. Catherine Vidal, d'abord un mot sur la vocation de ce groupe de réflexion genre et recherche en santé, donc qui est né au sein de l'INSERM, l'Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale. Qu'est-ce que vous essayez d'y faire exactement? C'est assez original comme démarche, ça.
Oui, c'est effectivement original, en toute modestie. L'idée étant de poser un regard éthique sur les sources des inégalités de santé entre les femmes et les hommes. Et comme vous le savez, ces inégalités de santé entraînent des discriminations donc dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Mmh. Et c'est donc un problème majeur de santé publique.
Ouais. Comment vous le prenez à bras-le-corps justement ce problème au sein de ce groupe? Alors comment vous opérez? Quelle est votre méthode?
Alors déjà, ce groupe est co-animé avec ma collègue qui est politologue, qui s'appelle Jennifer Merchant. Mmh. Et ensemble, nous avons déjà fait l'état des lieux du sujet. On a appris beaucoup de choses quand on a commencé à s'investir dans ce domaine. Et surtout, on s'est rendu compte à quel point il était important qu'il y ait au niveau institutionnel des structures pérennes qui s'intéressent à ces questions de genre et de santé, justement pour avoir des meilleures pratiques médicales, des meilleures pratiques de recherche, évidemment au bénéfice de la santé et des femmes et des hommes.
Est-ce que ces inégalités, est-ce que ça a été surprenant pour vous parfois? Est-ce que c'est allé au-delà de ce que même vous pouviez imaginer dans ce domaine?
Oui, moi j'ai été très surprise au départ, n'étant pas médecin, qu'il existait dans certains domaines des très mauvais diagnostics, en l'occurrence des sous-diagnostics. Un exemple très parlant est celui de l'infarctus du myocarde qui est sous-diagnostiqué chez les femmes, c'est-à-dire qu'à symptômes égaux, une femme qui se plaint de douleurs dans le thorax se verra prescrire des anxiolytiques, alors qu'un homme sera orienté vers un cardiologue. ce qui est quelque chose qui paraît invraisemblable de nos jours, mais qui, hélas, est encore bien vivace. Et l'exemple en miroir, c'est l'ostéoporose, qui est à tort considérée comme uniquement une maladie de femme ménopausée. Oui. Or, un tiers des fractures de la hanche sont dues à l'ostéoporose chez les hommes.
Chez les hommes. Donc ça va aussi dans les deux sens,
absolument,
hein, évidemment.
Absolument.
Alors, vous avez mis au point des petites vidéos, justement, d'une minute à destination du grand public et des médecins, parce qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser sur la question autour de cette thématique. Et on va écouter justement la vidéo consacrée aux maladies cardiovasculaires.
Comment allez-vous ?
Docteur, je ne me sens pas bien. Toujours fatiguée, pas en forme.
Avec son travail, ses enfants, c'est normal qu'elle soit fatiguée. Je vous prescris des vitamines, un peu de repos, et vous verrez, ça ira mieux. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive ?
Docteur, je ne me sens pas bien. Toujours fatiguée, pas en forme.
Cet homme est très stressé par son travail. Votre fatigue est à prendre au sérieux, je vous envoie chez un cardiologue.
Mais attention aux clichés !
Les troubles cardiaques représentent la première cause de mortalité chez les femmes, bien avant le cancer du sein. L'infarctus du myocarde est sous-évalué chez les femmes car il est considéré comme une maladie masculine caractéristique des hommes stressés au travail. Pour faire des diagnostics plus justes et mieux soignés, méfiez-vous des clichés sur les maladies des hommes et des femmes. C'est donc ça, parler de genre.
Voilà, Aude Bernheim, un commentaire sur cette vidéo que vous découvriez en même temps que nous là à l'antenne.
C'est extrêmement déprimant quand même. Enfin, j'espère que c'est pas aussi cliché quand les médecins reçoivent les patients, mais malheureusement dans les chiffres on voit que ça se passe un peu comme ça et qu'il y a des statistiques qui montrent que même si c'est pas à ce point-là stéréotypé, on a quand même des gros soucis dans cette direction.
Ouais, il faut mettre un petit peu de guillemets, Catherine Vidal, sur les stéréotypes là ou pas?
Bah, les stéréotypes, comme tous les stéréotypes, hein, ils sont souvent très inconscients et très intériorisés. Donc il faut en permanence faire un travail d'information, information auprès des personnels soignants, également auprès des personnes qui font de la recherche biomédicale, et aussi information auprès des patients. Et ça, c'était l'objectif de ces courtes vidéos, hein, ce sont des petits clips d'une minute, il y en a 6. Quelque part, il faut apprendre aux femmes à faire vérifier leur cœur et apprendre aux hommes à faire vérifier leur squelette.
Muriel Salle, pour vous peut-être ce message d'auditeur, c'est Patrice qui nous dit ceci. Est-ce qu'on constate une grande défiance des patients vis-à-vis des médecins du genre opposé lors de consultations, notamment quand il s'agit d'examens relatifs à la sexualité? Alors, est-ce que vous avez un élément de réponse? Vous n'êtes pas médecin, hein, vous êtes maître de conférence en histoire, maîtresse de conférence, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Patrice?
Je suis pas du tout certaine qu'il y ait une grande défiance des patients vis-à-vis des médecins pour des raisons qui soient le médecin est une femme et le patient est un homme ou inversement. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a parfois des difficultés de communication entre les patients et les médecins et qui tiennent notamment au fait, vous avez commencé à bien le dire, que les uns et les autres ont des cultures et notamment des cultures professionnelles qui sont pas du tout les mêmes et que voilà ça porte préjudice. On n'ose pas tout dire à son médecin quand on est patient et peut-être effectivement que quand on est une femme, et puis on pourrait rajouter par exemple une femme des classes populaires face à un médecin spécialiste un peu autoritaire, un peu paternaliste, peut-être qu'on modère certaines de ses plaintes parce que on craint d'être regardé un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme une femme qui pleurniche peut-être un peu trop aisément.
Oui. Aude Bernheim, au sujet justement des stéréotypes, vous le disiez tout à l'heure, il y a un besoin d'information très fort, autant du côté des hommes que des femmes elles-mêmes d'ailleurs, hein, que ce soit les médecins femmes ou les chercheuses par exemple.
Bien sûr. En fait, pour moi, il y a un concept qui s'appelle la menace du stéréotype qui est extrêmement important, qui est celui que, quel qu'on soit, patient, médecin, on va essayer de se conformer à un certain stéréotype et de le valider. Et du coup, les femmes auraient tendance à être plus sensibles, à se plaindre, à quoi que ce soit. Et du coup, on va leur dire « Ah non, mais votre douleur, c'est rien du tout. » Elles vont se dire « Ah oui, je suis une femme. » Inconsciemment, tout ça, hein, c'est pas des pensées conscientes. « Je suis une femme, je souffre plus facilement. C'est sûrement vrai que j'ai pas vraiment mal. » Et il faut apprendre à avoir conscience que c'est pas le cas et à s'écouter. Et du coup, dans ces cas-là, pour les femmes patientes, même si c'est triste et qu'elles devraient pas avoir le faire, de pousser à essayer de voir s'il y a pas d'autres choses qui sont là derrière. Et de la part du corps médical, c'est encore un milieu qui est extrêmement imprégné de sexisme. C'est bien connu. Il y a eu d'ailleurs un rapport je crois, d'interne récemment, qui a été réalisée, qui montrait que c'était extrêmement marqué par cela. Et bien sûr, ce type de comportement va quand même renforcer un certain nombre de stéréotypes inconscients dans la façon dont ensuite pourront être diagnostiqués un certain nombre de patients.
Oui, mais ça peut être très grave quand même, Catherine Vidal.
Oui, je voulais rebondir
sur... Dans ce domaine de la santé, évidemment.
Voilà, un exemple par rapport au fait de se plaindre et d'être considérée comme une femme hypersensible. La question de l'endométriose, qui est une maladie qui est maintenant reconnue en tant que telle et dont on commence à comprendre les mécanismes. En fait, la muqueuse utérine, dans certains cas, peut proliférer à l'extérieur de l'utérus et au moment des règles, cela entraîne des douleurs extrêmement violentes. Or, très longtemps, on a dit « Oh, mais c'est normal d'avoir des douleurs pendant ces règles ». Eh bien non, ce n'est pas du tout normal. On peut avoir quelques sensations douloureuses, mais avoir des douleurs à ce point-là, ça relève d'une pathologie qui maintenant est reconnue, mais c'est long, c'est long.
Muriel Salles, à quel moment remonte ce cliché autour du sexe faible, justement ?
Alors, la construction d'une nature féminine, c'est l'expression consacrée, va de pair avec l'idée du sexe faible, elle date de la fin du XVIIIe siècle. Et les explications historiques sont d'ailleurs assez intéressantes parce qu'on voit que la santé est quelque chose de fondamentalement politique. Pour expliquer la chose en deux mots, en fait, on sait que la Révolution française ouvre un certain nombre d'espoirs d'émancipation. On peut rappeler par exemple que le divorce est autorisé dès 1792. Bon, et qu'assez rapidement, les espérances qui se sont manifestées vont être déçus. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et ça concerne les hommes, mais ça ne concerne pas les femmes. Et donc, du coup, voilà, l'émancipation a l'air de pointer son nez. Le Code Napoléon ferme assez vite la parenthèse en 1804. Et donc, il y a forcément des femmes qui sont un peu déçues de cette porte qu'on leur claconnait. Et donc, il va falloir sortir tout un discours médical qui va s'élaborer à ce moment-là pour finalement justifier ce retournement de situation. Il va falloir déployer tout un discours qui invalide les femmes pour fonder un discours, on va dire, sur la science moderne et installer l'idée que parce que c'est en nature que se fonde l'égalité des hommes, et ben c'est en nature que se fonde l'incapacité des femmes à l'égalité. Et donc, voilà, on installe cette idée-là que la nature des femmes les exclut évidemment d'un certain nombre de choses, depuis les études jusqu'à l'exercice des droits politiques. Et ça passe par des discours médicaux extrêmement invalidants, des centaines de pages qui sont écrites sur des maladies de femmes, alors qu'il n'y a pas une page sur les maladies qui seraient des maladies d'hommes.
Femme et santé, est-ce encore une affaire d'homme, justement, dossier de la tête au carré cet après-midi.
Si moi aimer depuis nani nana, toujours et tout dans la caille. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour toi. Oh non non,
maman,
les mains qu'à songer on peut pas attendre.
Maman.
Encore en moins qu'à mon desserré. Les mon carouel, c'est au moins qu'attendre. Tout du côté ça.
Il monte qu'à moi, mite, quando vi morie. Il sort de mon lève matin, quando vi morie. Il cala voti l'autre, quando bambe morie.
Les mots qu'à songer, on ne peut pas attendre. Tout corps en moins qu'à m'en desserrer. Les mots qu'à wear, c'est au moins qu'à attendre. Tout doumi, c'est ça.
Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. tema ya sokiyote nanio yakoyokanga yakopesanga lolango
les mains qu'à songer on peut pas attendre tout comme un camon desserré
Bona Loco avec Mama.
La tête au carré sur France Inter.
Catherine Vidal, Muriel Salles publient ensemble cet ouvrage Femme et Santé. Encore une affaire d'homme, point d'interrogation, effectivement, aux éditions Belin, dans cette collection Égal à Égal. Et puis Aude Bernheim est également avec nous pour l'Institut Pasteur et l'association Wax Science. Et vos messages qui arrivent sur franceinter.fr. Les témoignages qui arrivent également sur le site de l'émission. Catherine Vidal, Véronique qui nous dit ceci. Un an avant de faire mon infarctus à 35 ans, le cardiologue m'a dit que je faisais de la déprime. Aujourd'hui, à 38 ans, je ne me remets pas vraiment très bien. Toujours des douleurs qui sont dites psy. C'est incroyable parce que ça persiste après même le diagnostic.
Oui, hélas.
Et après même l'accident.
Oui, cet exemple, on voudrait ne pas entendre ce genre de choses, hein, mais ça, c'est toujours une réalité, non seulement en France, hein, mais ailleurs en Europe et aux États-Unis. Et d'où l'importance de faire un travail fondamental dans la formation des étudiants en médecine, mais aussi la formation continue auprès des médecins. Et ces sujets-là, il faut les aborder de front, parce que ce sont en fait des problèmes majeurs de santé publique.
Bien sûr.
Les invalidités suite à des problèmes cardiaques ou suite à des fractures...
Et suite à des mauvais diagnostics aussi.
Absolument, sont des problèmes majeurs de santé publique. Et il est vraiment important d'avoir un effort d'information, donc, et des personnels spécialisés, et comme on en parlait tout à l'heure, des patients.
Muriel Salles, alors ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous l'inscrivez aussi dans un contexte historique, on le disait tout à l'heure, à la lumière aussi des mouvements féministes, parce que cette question-là, et ces revendications-là, elles existent quand même depuis plusieurs décennies maintenant.
Oui, absolument. C'est une partie de l'histoire des mouvements féministes qui est assez mal connue. Mais dans les années 70, au moment où les mouvements féministes se manifestent aux États-Unis et par la suite en France, effectivement, il y a une partie du mouvement féministe qui porte des revendications qui ont trait aux questions de santé et notamment un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour la santé des femmes, qui va mettre en avant un certain nombre de choses. La première, c'est que il y a une fabrication du savoir médical qui prend le masculin comme la norme et qui conçoit toujours le féminin comme l'exception. Et c'est intéressant parce que les féministes des années 70 disent les choses pour la science médicale, alors que finalement Beauvoir avait dit la même chose en 49 dans d'autres domaines. Donc on voit que c'est quelque chose qui concerne la science en général, la science médicale n'en étant qu'un exemple. Et puis ces féministes des années 70, elles vont beaucoup porter la question sur des questions qui sont liées à la santé reproductive, à la médicalisation de la grossesse, c'est de l'accouchement, et puis ensuite à la médicalisation de la ménopause. Et elles vont dire que les femmes ont des savoirs sur leur corps, ou doivent en tout cas avoir des savoirs sur leur corps, et elles vont veiller à produire et à diffuser ces savoirs en horizontalité, entre militantes, en se passant finalement du pouvoir médical qui est perçu comme surplombant et patriarcal, pour utiliser la terminologie de l'époque.
C'est assez affligeant quand même, Muriel Salles, parce que là on parle d'une histoire qui date de près de 50 ans maintenant quand même, hein. Ce que vous décrivez là.
Je suis bien d'accord avec vous. Mais une histoire de près de 50 ans, mais qui est en fait une histoire très mal connue. Donc voilà, les histoires qu'on ne connaît pas, elles ne produisent pas les effets qu'on pourrait espérer. Et ben, c'est la raison pour laquelle, moi, c'est une partie de l'histoire que je veille à expliquer et à enseigner, notamment aux étudiantes et aux étudiants qui s'inscrivent en faculté de médecine ici à Lyon.
Qu'est-ce que vous disent les étudiantes, d'ailleurs, quand elles apprennent ces faits au sein même de la recherche et de la santé? Est-ce qu'il y a beaucoup de surprises?
Et il y a beaucoup d'incrédulité, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'incrédulité qui tiennent notamment au fait, vous l'avez dit tout à l'heure, que je ne suis pas médecin. Et donc, du coup, il y a quand même une question de légitimité. Ah. En quoi suis-je légitime à porter, on va dire, à croiser le fer, en quelque sorte, avec un grand professeur de cardiologie, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup d'incrédulité, parce qu'il y a aussi une forme de révérence par rapport au savoir scientifique qui est perçu comme quelque chose d'objectif. Or, vous l'avez très bien dit dès l'introduction, l'idée, c'est de dire que les stéréotypes, ils imprègnent les savoirs, ils imprègnent les soignants, le corps médical, au même titre qu'ils imprègnent les patients et les patientes.
Et leur santé.
C'est pas, voilà, c'est pas faire de l'hyper-relativisme que de dire que la science, c'est un état actuel des connaissances. Et en l'état actuel des connaissances, les stéréotypes prennent une part importante dans la connaissance scientifique.
Allez, je reviens à cette question que je vous ai déjà posée tout à l'heure, mais elle revient au standard. C'est Fanny qui demande si les études ont analysé justement le fait que des médecins femmes ont autant de stéréotypes que leurs homologues masculins. Vous le disiez tout à l'heure, Aude Bernheim.
Des études qui ont étudié ça, je n'en connais pas, mais donc à part avoir des ressentis et des expériences personnelles de voir que des femmes sont tout aussi stéréotypées que leurs collègues, il n'y a pas eu de quantification à ce que je sache.
Alors en tout cas, le masculin comme la norme, justement, dans le domaine de la recherche, ça c'est intéressant, voilà. Parce qu'on voit quand on étudie les choses de très près, à quel point la recherche est biaisée aussi par ces questions-là. Hein.
Donc ça, ce qui est très intéressant d'en prendre le masculin comme la norme, c'est qu'au-delà du diagnostic, dans la recherche, qui est quelque chose de moins connu et qui commence à être mis au jour récemment, ça fait qu'une dizaine d'années, je dirais que c'est des sujets qui émergent de façon très importante dans la recherche biomédicale, le masculin est considéré comme la norme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les études, par exemple, de toxicité de certains médicaments sur des modèles animaux vont être faites sur des rats mâles. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à manipuler, parce qu'il n'y a pas de cycle hormonaux, du coup, on va avoir moins de variations, ça coûtera moins cher. Sauf que si on étudie que sur des rats mâles, on va passer à côté d'effets secondaires. Et il y a eu des études qui ont montré qu'une partie des médicaments qui étaient retirés du marché américain entre 1997 et l'an 2000, une grande partie était en fait retirée parce qu'il y avait des effets secondaires chez les femmes qui n'avaient pas été vus avant. Parce que ces médicaments étaient testés sur des hommes et qu'ensuite, au niveau des essais cliniques, là encore, il y allait avoir beaucoup plus d'inclusion de patients mâles pour simplifier les choses et pouvoir avoir des résultats qui allaient moins varier. Or, passer à côté du sexe comme variable dans la recherche est un énorme problème. Et depuis 2012, maintenant, l'équivalent de l'INSERM américain est en train de forcer les chercheurs à prendre ça en compte.
Ouais, mais dans les études cliniques, par exemple, là, on a quand même des quotas hommes-femmes qui sont équivalents, j'imagine, quand même, non?
Pas forcément, non.
Ah bon?
Enfin, il y a quand même
eu beaucoup de progrès
dans ce domaine-là. Hein,
parce qu'on ne peut pas tester un médicament en clinique sans prendre une population d'hommes et de femmes.
Bon, il y a, au départ, ça a été l'objet d'une loi votée par le Congrès aux États-Unis en 1993, qui justement donnait plus que des directives, mais une obligation pour les organismes de recherche et d'évaluation des médicaments d'inclure dans les essais cliniques à la fois des femmes, des hommes et des personnes des minorités ethniques. Ensuite, à partir des années 2000, l'Organisation mondiale de la santé et de nombreux organismes ont fait en sorte qu'il y ait des directives très sérieuses et avec des contrôles qui fasse que dans les essais cliniques, on inclut bien sûr des femmes. Bon, on peut dire que il y avait un réel danger dans les années 2000. Hein, ce dont vous parlez, c'est à savoir que certains médicaments ont été retirés du marché. En fait, ils ont été retirés du marché principalement parce que c'était des médicaments prescrits uniquement à des femmes. C'est pas parce que les femmes avaient des effets secondaires et que les hommes n'en avaient pas, c'est parce que c'était les femmes qui recevaient ces médicaments comme ça, certaines pathologies pouvaient le demander. Mais pour terminer avec cette histoire d'essais cliniques, globalement, il y a environ 33% dans l'ensemble des essais cliniques, que ce soit chez nous, en Europe ou ailleurs, il y a environ 33% de femmes dans les essais cliniques.
Oui. Et pourquoi pas 50%? Enfin, ça paraît quand même inouï, non?
Alors, pour des raisons également pratiques, hein, quand vous faites des essais cliniques, ce sont des essais qui durent dans le temps, qui peuvent durer plusieurs mois. Et avoir des femmes, sauf les femmes qui sont sous contraception, hein, parce que bien sûr qu'on prend des femmes sous contraception, mais il peut aussi y avoir des femmes qui ne sont pas sous contraception ou bien qui décident qui ont un projet de maternité. Et à ce moment-là, ces femmes seront retirées de l'essai clinique, ce qui va faire que la population de femmes va être moins importante.
Oui, mais donc on l'admet ça. On part du principe que finalement, avoir seulement 33% de femmes, c'est quelque chose de quasiment normal ?
Oui, mais si, vous voyez, c'est pas parce qu'il y aura un jour...
Est-ce que vous ne seriez pas victime vous-même d'un stéréotype Catherine Vidal de genre ?
Non, ce que je veux dire, c'est que dire il faut à tout prix 50% d'hommes et de femmes dans des essais cliniques, certes, c'est un joli objectif, mais ce n'est pas ça non plus qui va résoudre le problème des inégalités de santé entre les femmes et les hommes, qui, comme on l'a dit, sont dues non seulement à des problèmes de biologie, certes, évidemment, il n'y a pas question de le nier, mais également à des problèmes d'origine sociale, culturelle et économique. Hein, ça, je crois que c'est un sujet très important.
La question de la précarité. Hein.
Exactement, parce que la précarité, ça veut dire des faibles revenus, vont entraîner un renoncement aux soins. Ça va aussi entraîner des hygiènes de vie pas toujours idéales, des consommations d'aliments un peu trop gras parce que pas cher, des consommations d'alcool, de tabac. Tout ce contexte va entraîner une mauvaise santé liée directement à une précarité économique. Et bien sûr, il y a un autre aspect qui est que non seulement les femmes sont les premières travailleuses pauvres, hein, 70% des travailleuses pauvres sont des femmes et souvent ce sont des familles monoparentales, vraiment en grosse difficulté. Et il y a aussi un aspect qui est que les femmes aussi sont, comme vous le savez bien, les premières victimes de violences. Et les violences, évidemment, se répercutent sur la santé des femmes.
Muriel Salle, vous souhaitiez réagir depuis Lyon.
Oui, effectivement, simplement pour compléter sur cette histoire, peut-être de cette idée un peu loufoque d'une revendication de la parité en santé.
Oui.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, il n'y a pas d'obligation réglementaire qui imposerait d'éclore des femmes dans les essais cliniques à parité avec les hommes. Mais en soi, c'est pas dramatique. Ce qu'il faudrait en fait simplement obtenir, c'est une représentation des femmes en proportion de la prévalence de la maladie chez les femmes. Et ça, pour la peine, ça aurait davantage de sens qu'une revendication paritaire qui serait seulement idéologique. Et puis la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est pour rebondir sur ce que disait Aude Bernheim tout à l'heure, sur l'inadaptation supposée d'un certain nombre de médicaments aux femmes, qu'effectivement, il y a une étude qui date un peu, qui a beaucoup circulé sur cette question-là, où on a mis en avant l'idée que, en fait, grosso modo, sur 10 molécules qui avaient été retirées du marché américain, 8 l'avaient été en raison d'effets secondaires plus importants chez les femmes.
Oui.
C'est une étude qui est très discutée, en fait. C'est une étude très, très discutée, notamment parce qu'en fait, elle repose sur le fait qu'on parle d'effets secondaires rapportés. Donc là, il y a un premier biais. C'est pour ça qu'il faut, regarder les choses dans le détail parce que les choses sont compliquées.
Oui.
Le premier biais, il est là, c'est que les femmes rapportent plus d'effets secondaires que les hommes pour la simple et bonne raison, pour commencer, que les femmes consultent davantage que les hommes, par exemple. Donc elles sont davantage chez le médecin. Donc forcément, elles expriment plus de choses par rapport aux effets secondaires. Mmh. Et puis Catherine l'a bien dit aussi, on parle de médicaments. Les médicaments incriminés dans cette étude sont des médicaments qui sont plus souvent prescrits à des femmes. Donc mécaniquement, les femmes sont davantage touchées par les effets secondaires. Et puis pour terminer, certains des effets secondaires dont on parlait étaient notamment un ralentissement du cœur chez les femmes âgées. Et là, pour la peine, quand on fait une lecture purement biologisante, on dit les femmes supportent mal ces médicaments, alors qu'en fait, ce dont on parle, c'est pas seulement de femmes, c'est de femmes âgées qui éventuellement prennent d'autres médicaments. Donc il y a la question de l'interaction médicamenteuse qui est un des facteurs explicatifs de ces effets secondaires. Il y a aussi l'idée que certaines de ces femmes âgées font un mauvais usage des médicaments et donc il faut prendre garde en fait à ne pas avoir une lecture qui soit trop binaire, donc une revendication de parité ou une revendication pour dire les femmes sont biologiquement différentes. C'est en réalité plus complexe que ça.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion avec d'autres messages pour vous sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Coming out of left field. Ooh, I'm a rebel just for kicks.
Feel It Still avec Portugal The Man.
La tête au carré.
Alors, comment va votre hanche aujourd'hui? La fracture n'est pas trop douloureuse?
C'est long, je m'en rappellerai de cette plaque de verglas. J'ai déjà 60 ans.
Un peu d'exercice, et vous verrez, ce sera vite oublié.
Mais attention aux clichés!
Un tiers des fractures de la hanche chez les hommes est lié à l'ostéoporose. Et le risque d'une deuxième fracture est le même pour les hommes et les femmes. L'ostéoporose est sous-diagnostiquée chez les hommes car considérée comme une maladie féminine associée à la ménopause. C'est donc ça, parler de genre.
Et c'est le thème de la tête au carré, genre et santé, cet après-midi avec Catherine Vidal, Muriel Salle et Aude Bernheim et vos messages sur le site de l'émission. Alors il y a Jean qui nous dit ceci, je me fais l'avocat du diable, il a bien raison. Comment expliquez-vous alors que l'espérance de vie des femmes soit supérieure à celle des hommes? Alors même chose, tout à l'heure Muriel Salle nous disait, les femmes vont plus souvent chez le médecin que les hommes. Donc tout ça est très contre-intuitif, Catherine Vidal. On pourrait s'attendre à ce que les femmes soient en bien meilleure santé du coup, ou mieux prises en charge que les hommes.
Bon, elles vivent plus longtemps pour un certain nombre de facteurs qui sont très complexes. Hein. Ce n'est pas justement uniquement des facteurs biologiques, mais également le fait qu'elles se soignent un peu mieux que les hommes, puisqu'elles vont consulter davantage. Alors, hélas, c'est tellement triste de voir à quel point certaines personnes, hommes, refusent d'aller chez le médecin. Enfin, dans notre vie quotidienne, on en connaît, je pense, un certain nombre. C'est un phénomène qui est très important. Il faut vraiment se dire, bon, j'ai quelque chose qui ne va pas, j'y vais pour être mieux soignée. C'est tout simple. Bon, mais le fait qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, hein, environ il y a 6 années de différence...
85,4 ans pour les femmes, vous rappelez les chiffres, voilà. En 2016, et 79,4 ans pour les hommes.
Voilà. Donc, il y a aussi le fait que dans les activités professionnelles, elles ne sont pas soumises aux mêmes nuisances de santé que les hommes. Il y a tout un ensemble de choses, justement, qui relèvent de la biologie, de la sociologie et aussi des conditions économiques. Mais ce qu'il y a également, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais elles vivent plus longtemps en mauvaise santé.
Avec les facteurs de morbidité.
Voilà, elles sont plus souvent malades, plus souvent en mauvaise santé. Et l'espérance de vie en bonne santé entre les femmes et les hommes, est de l'ordre de 63 et 64 ans. Donc, c'est quasiment la même chose. Mmh. Mais les femmes vivent plus longtemps, mais en mauvaise santé.
Ouais, c'est parce qu'elles vont voir plus souvent le médecin, non? C'est peut-être pour ça. Muriel Salle, un commentaire, justement, toujours là-dessus?
Oui, je crois qu'effectivement, la réponse clé, c'est celle que Catherine vient de donner. Espérance de vie, c'est une chose. Espérance de vie sans invalidité, c'est autre chose. Il n'est qu'à voir la population des établissements hospitaliers qui prennent en charge les personnes âgées dépendantes. La personne âgée dépendante, en réalité, c'est une femme. Et avec les conditions de précarité, on le sait, hein, parce que les retraites féminines sont moitié moins importantes presque que les retraites masculines, les choses vont se cumuler. Et moi, peut-être je vais avoir l'air très pessimiste, mais je ne suis pas certaine que les femmes soient durablement, comme ça, bénéficiaires d'une vie plus longue par rapport à ce qu'on observe à l'heure actuelle, en tout cas.
Ouais. Marie-Aude nous dit ceci, un corps féminin se soigne-t-il comme un corps masculin d'un point de vue purement biologique, Muriel Salles, est-ce que vous souhaitez répondre ?
Ça dépend beaucoup, ça dépend de quantité de choses, un corps féminin, un corps masculin. Si on était au 19e siècle, on croit que les corps féminins, les corps masculins sont différents les uns des autres, de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des orteils. Aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose d'important à faire passer. En tout cas, moi, j'essaye de l'expliquer à mes étudiants en médecine. Bien sûr, il y a des différences biologique entre les hommes et les femmes, mais tout n'est pas différent entre les hommes et les femmes. Enfin, je vais donner un
seul exemple. Des organes, par exemple, non ?
Par exemple, le foie.
Oui.
Le foie dont on découvre la fonction de stockage du glucose à la fin du 19e siècle. Mm-hmm. Un foie d'homme et un foie de femme, ça fonctionne tellement de la même façon qu'on peut même greffer un foie d'homme à une femme ou inversement. Mm-hmm. Donc, il y a des différences, mais tout n'est pas différent. Donc, un corps féminin ou un corps masculin, ça peut se soigner de la même façon ou pas, ça dépend ce qu'on soigne.
Ouais. Justement, dans cette histoire aussi du genre et de la santé, et on parlait tout à l'heure du sexe faible, vous disiez à quel point précisément on présentait toujours les femmes comme d'éternelles malades aussi.
Ah oui, mais ça c'est l'expression effectivement de Jules Michelet qui effectivement considère que grosso modo de la puberté à la ménopause, les femmes entre les règles et les grossesses passent effectivement l'essentiel de leur temps à être malades. Ce qui me paraît en fait aujourd'hui être une idée encore assez bien partagée. Hein. Catherine évoquait tout à l'heure la question de l'endométriose. Si la reconnaissance de l'endométriose par la Haute Autorité de Santé est très récente, c'est 2016, hein, ça s'explique notamment par le fait que l'idée est installée précocement chez les femmes elles-mêmes, que ben, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, c'est normal de se sentir affaiblie, et c'est la raison pour laquelle il faut par exemple 8 à 10 ans pour qu'une endométriose soit diagnostiquée correctement. Mmh. Les femmes portent ce regard-là souvent sur leur propre corps. Et ça, c'est un regard situé dans le temps et dans l'espace. Voilà.
Il y a cette idée aussi de la physiologie féminine qui est lue au prisme de l'utérus, hein, c'est ce que vous rappelez finalement, et qu'on associe encore à l'hystérie pendant... encore oui, aujourd'hui, selon vous ?
Ça, c'est, à mon avis, c'est quand même une idée qui a vécu et qui, si elle continue d'exister, existe dans des savoirs populaires et plus dans des savoirs médicaux, en tout cas, je l'espère. Mais c'est une idée qui a encore cours dans beaucoup de savoirs populaires. On le voit quand on s'interroge sur la mauvaise humeur ponctuelle d'une collègue. On impute ça à ses règles. C'est des commentaires sexistes, mais c'est des commentaires qu'on entend et qui sont certainement un peu révélateurs d'une espèce de culture populaire sous-jacente qui persiste. Ouais. Et on pourrait donner d'autres exemples.
Hein. Aude Bernheim, comment on fait bouger les choses ? Alors, parce que c'est ce que vous essayez de faire, vous, hein, concrètement, au travers d'une association comme Wax Science, hein, pour essayer de faire un peu bouger et de casser ces stéréotypes.
Moi, ce que je pense qu'on a bien senti au cours de l'émission, c'est à quel point c'est subtil. On n'est pas dans du 50%, il faut absolument des chiffres comme ci, ou tout est en défaveur des femmes. Et je pense que c'est une prise de conscience assez généralisée qui a déjà été évoquée, de l'information, des cours comme ce que donne Muriel Sell, qui devrait être un peu généralisé, pour qu'il y ait une meilleure connaissance de ces sujets, donc qu'il y ait une connaissance qu'il y a des différences qui existent, mais que ces différences ne sont pas forcément toutes plus évidentes les unes que les autres. Et un aspect que je voudrais juste mentionner, et qui est là encore assez subtil, c'est l'importance de prendre en compte cela dans la recherche. Typiquement, aujourd'hui, les connaissances avant même la recherche appliquée, les médicaments, c'est la recherche fondamentale et la façon dont on comprend les processus fondamentaux. Et un exemple, c'est que dans beaucoup d'études, le sexe ne va pas être précisé sur, par exemple, les lignées cellulaires utilisées. Or, cela peut vraiment avoir... cela peut être similaire, comme on l'a dit, ou différent. Et du coup, le préciser est important. Ouais. Et du coup, plus les soignants, plus les chercheurs sauront ça, plus on pourra espérer que ça bouge.
Cécile nous dit, les femmes consultent plus souvent, certes, mais merci de préciser que dès leur jeunesse, elles sont quasi obligées, contraception, accouchement, ce qui, évidemment, ne concerne pas les hommes, Catherine Hidal. Hein. C'est vrai que c'est bon de le rappeler.
Oui, c'est l'importance de ces facteurs socio-culturels est fondamentale si on veut bien comprendre les sources des inégalités de santé entre les femmes et les hommes. Et donc, il faut un effort, mais vraiment très important, de formation des personnels soignants, un effort de formation également des chercheurs. Mais il nous faut aussi interpeller les politiques pour qu'ils permettent un accès plus facile aux soins des personnes en situation de précarité et qui sont aussi victimes de violences très souvent.
Avec ces représentations, vous disiez que nous avons bien intégré sans nous en rendre compte, hein, et tous ces clichés qu'on véhicule extrêmement facilement. Pour aller plus loin dans la réflexion, ce livre « Femmes et santé, encore une affaire d'homme ?» c'est chez Belin, dans cette collection « Égal à égal » Muriel Salle et Catherine Vidal. Vous signez cet ouvrage. Et puis il y avait également ce numéro de « Science et santé », le magazine de l'INSERM sur le sexe et le genre qui était sorti en novembre mais qui doit être encore disponible. Il suffit d'aller sur le site de l'INSERM pour lire ce document et ce dossier « Mieux soigner les femmes et les hommes ». Merci beaucoup à tous les trois. Merci au bureau de Lyon pour ce duplex avec Muriel Salle.